Alors je cite Saint Paul aux Corinthiens. Je me présente à vous faible et tout tremblant de crainte. Après, il dit, mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, dans le sens que l'attitude qu'aujourd'hui Florence nous proposait, qui venait de la liturgie d'aujourd'hui, d'être comme des enfants qui recevaient les profondeurs de Dieu. Cette attitude, je voudrais vous proposer de la renouveler. Non? Parce que à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, c'est toujours un peu... On est toujours comme ça, faible, tremblant, non? Avec pas mal de craintes, beaucoup de craintes. Voilà. Ça vous va? Ça vous dit? On se met dans cette attitude, tous ensemble. Aussi parce qu'on est en fin de journée, une journée chaude, donc c'est aussi un peu voilà, difficile. Ma crainte vient aussi du fait que j'ai choisi de vous proposer un texte qu'il ne faudrait jamais commenter. Parce que c'est la dernière prière de Jésus au Père. C'est Jean 17. Seulement le premier 5 versets, non? C'est la prière que Jésus fait après avoir dit, après avoir lavé les pieds et fait tous les discours entre le chapitre 13 et le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Il a dit qu'il allait partir et que l'Esprit Saint sera donné, le Consolateur, le Paraclite, et qu'ils seront persécutés, mais qu'il ne faut pas avoir crainte, ça va, et il reviendra. Et à un moment donné, tout s'arrête. Et Jésus commence à prier, comme s'il était... Non, les disciples étaient là, autour de lui, après tout ce discours. Non. Et à un moment donné, il arrête de parler avec eux, mais à voix haute, donc les disciples peuvent entendre ce qu'il dit. Il commence à prier le Père. Et Jean écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Tu dis... Non, vraiment, le texte est complexe, vous le voyez, c'est difficile, non? Et davantage que par rapport au texte qu'on a lu aujourd'hui, je pense qu'ici la contemplation vient d'avance. C'est la première chose à faire. Mais moi, je voudrais simplement dire quelque chose qui m'a frappé et que je voudrais ait une retombée sur notre vie. Un commentateur de ce texte dit que essayer de le commenter, c'est comme un signal acoustique désagréable qui fait du bruit, mais qui dit que là, il y a quelque chose. Non ? Donc voilà, un peu de bruit. D'abord, ce texte, c'est un texte qui nous indique quel est l'héritage que Jésus nous laisse. L'héritage, ce n'est pas le fait d'avoir une sorte de procédure pour obtenir le salut. Ce n'est pas ça, l'héritage. L'héritage qu'il nous laisse, c'est que nous sommes identiques à lui, c'est-à-dire fils de Dieu. Et donc, c'est la possibilité qu'il nous ouvre d'entrer, d'une certaine manière, dans la vie qui est la vie entre le Père et le Fils, et donc dans la vie trinitaire. Et donc, tout le chapitre 17, c'est comme une sorte de chemin qu'on fait pour pouvoir entrer dans cette vie trinitaire. Et donc, il faut y entrer en silence, avec beaucoup de respect, avec des yeux attentifs et purifiés, les yeux de l'âme, les yeux de l'esprit. C'est une question d'intelligence, mais c'est aussi une question de cœur. Et une chose, peut-être vous l'aviez noté, moi je ne le savais pas, je me suis rendu compte que l'évangile de Jean ne contient pas le Notre Père. Nous le trouvons seulement dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas le Notre Père. Et il me semble que dans cette prière du chapitre 17, c'est comme une sorte de commentaire au Notre Père. C'est un commentaire approfondi du Notre Père. Et dans ce sens-là, cette prière est véritablement la prière chrétienne. Vous savez, dans les autres évangiles, nous avons vu toujours Jésus qui se met à l'écart des autres et prie en silence. On ne sait jamais ce qu'il dit. Sauf une fois, il dit, quand vous priez, vous pouvez prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Non, d'accord. Eh bien, là, c'est comme s'il nous accueillait dans ce rapport intime qu'il avait dans ces moments de silence entre lui et son Père. Et une chose intéressante, aujourd'hui, j'ai à nouveau compté, parce que ça fait déjà 2 jours qu'on compte les paroles dans l'Écriture, non ? Ce matin, elle a gagné, clairement. Elle a gagné 500 fois, non ? Eh bien, dans le chapitre 17, la parole « Père » est dite 6 fois. Non ? Et vous savez, le numéro 6 dans la Bible est le numéro de l'homme, c'est-à-dire le 6e jour, Dieu créa l'homme. Eh bien, le nombre du repos du Dieu, c'est le 7, c'est le 7e jour. Et donc, c'est comme Jean avait écrit ce chapitre en mettant 6 fois le nom Père pour que nous disions la 7e fois notre Père. D'une certaine manière, le texte nous amène à dire « Notre Père avec Jésus » pour que tout le dessein de l'humanité, tout le dessein de Dieu sur l'humanité s'accomplisse. Après, une autre chose. À un moment donné, dans le texte, il dit « L'heure est venue ». Cela signifie que quand nous disons « Notre Père », quelque chose peut se réaliser, si nous le disons en connaissance de cause. Bah, en connaissance de cause, ce n'est pas une bonne expression. Si nous le disons parce que l'Esprit nous le fait dire comme il faut, comme fils. Et donc, cette parole, la prière de Jésus du chapitre 17, la prière pour l'unité, le testament de Jésus, cette parole nous est communiquée afin que nous entrions nous aussi dans cette parole, dans cette prière de Jésus, de ce dialogue de Jésus avec le Père. Et donc ça signifie que le temps est venu. moi, je me rends compte que je suis toujours dans l'attente de quelque chose qui doit venir. La fin des temps, l'eschatologie, non, c'est... Mais avec Jésus, le temps est venu, l'heure est venue, l'heure c'est maintenant. Le temps, le bon, le temps propice, comme on dit, le tempo computer, le temps accompli, c'est aujourd'hui. Et ça c'est présent dans tous les évangiles. Hein. C'est-à-dire, on doit attendre rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à attendre. C'est bon, n'est-ce pas? Et donc, la relation du Fils avec le Père peut s'ouvrir à nous par grâce chaque instant. C'est pour cela qu'il parle devant les disciples et révèle son mystère le plus intime. Et nous aussi, nous sommes là avec lui. Nous sommes les disciples autour de lui pendant qu'il prie. Et nous disons le Notre Père avec lui. Je vous dis simplement que quand j'ai compris cette chose, bon, d'abord, j'ai commencé à dire une seule prière. Et c'était le Notre Père. Et parfois, pour dire le Notre Père, j'utilisais ce texte que je vous ai lu. Non, le même texte. Au lieu de dire le Notre Père, je disais « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que... Ah bon, » J'ai même fait une appli sur le téléphone, je tape et il sort. Non, donc c'est... Et donc la prière. La première chose, la prière. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'introduction, c'est-à-dire après avoir ainsi parlé, l'introduction à la prière de Jésus est tout ce que Jésus a dit et fait tout au long de l'Évangile. Non ? Eh bien, après avoir fait tout ça, maintenant, l'heure, Jésus communique aux disciples la source de l'amour et la source de leur mission et de leur capacité à vaincre le mal. Et donc, il élève son regard. Et c'est comme s'il disait « Notre Père qui es aux cieux ». Et ce n'est pas simplement une posture du corps. Le regard se dirige là où le cœur est placé, là où une personne met ce qui pour lui est le plus important. Là est notre cœur. Mais pour Jésus, le cœur est auprès du Père. Et le texte, au début, commence à la troisième personne. Et après, il passe à la première. Je. Et donc, avant de dire je, Jésus dit tu. Et c'est la structure de toute prière chrétienne. Au commencement, il y a le Père. Quand nous prions, nous ne regardons pas nous-mêmes. Là aussi, on pourrait dire, non ? Parce que parfois, notre prière, c'est une sorte de dialogue avec nous-mêmes, non ? Une réflexion intime, personnelle, voilà. Non ? C'est bien, il y a pas mal de techniques aussi pour faire ça, non ? Mais la prière chrétienne, c'est ouvrir les yeux, c'est-à-dire poser notre cœur dans le cœur du Père. Et donc, la priorité est donnée à l'autre. Et donc, en cette mesure, dans la mesure où nous sommes unis à l'autre qui est le Père, nous nous percevons comme fils, qui comprennent l'amour du Père. Et si nous avons l'amour du Père qui aime tous les enfants, tous les fils, tous les frères sont inclus dans notre relation avec le Père. Là, ça semble un raisonnement, mais ce n'est pas un raisonnement. Si je peux dire Père à Dieu, nous ne disons pas « Mon Père, que ton nom soit sanctifié ». Nous disons « Notre Père ». Et donc, dans ma prière, Florence est inclue. Dans ma prière, Monique est dedans. Dans ma prière, l'humanité entière est dedans. Quand nous disons ça, en fait, nous parlons au nom de l'humanité tout entière. C'est une conscience énorme, si vous voyez. C'est vraiment énorme. Et pourtant, c'est le christianisme. Ce que Jésus nous a laissé comme héritage. En le disant, nous amenons aussi nos frères dans cette relation, à signifier que notre prière n'est jamais un exercice solitaire, même si nous sommes tout seuls à la prononcer. Eh bien, qui est ce Père dont on parle? C'est le Papa. C'est Abba en hébreu. Abba en hébreu. En français, on dit, non, les enfants disent comment au Père? Papa, voilà, comme en italien. Oui. Voilà. Comment? Papounet. Papounet, ça va, comme ça. C'est intéressant. Il n'y a pas le mot Dieu, il n'y a pas le mot Seigneur, il n'y a pas le mot le Très-Haut, le Tout-Puissant. Il y a le mot très familier, Papa. Papounet. Pourtant, c'est ce Papa qui est au paradis. C'est-à-dire, mon Père est Dieu, et Dieu est mon Père. Et donc, en prononçant notre Père, Abba, Papa, en fait, nous découvrons notre identité de fils. De là naît une toute nouvelle vie qui consiste à vivre la fraternité en toutes ses dimensions de relations positives, qui rend la vie belle. Pour ça, c'est-à-dire, si j'ai confiance en ce papa, non, comment dire, tous les frères font partie de cette confiance que j'ai en lui. Et donc, là est le fondement de la fraternité universelle. C'est pour cela que papa est la prière fondamentale. Cela signifie que nous sommes protégés. Cela signifie que nous sommes en sécurité. Savoir que le Père m'aime infiniment, ça change tout. Et ma mauvaise relation avec lui peut devenir une mauvaise relation avec moi-même et avec tout le monde. Et donc concevoir ce Père comme un papa, ça change nos relations avec Dieu, mais aussi avec les autres. Les mauvaises relations deviennent bonnes relations. Ça donne une confiance envers les autres énorme. Les autres ne sont plus des gens que je dois garder à distance ou que je dois, face auxquels je dois me défendre, non? Voilà. Ça va? À un moment donné, Jésus dit, non? Que je fasse connaître ta gloire, non? Comme tu m'as aimé. Que je fasse connaître ta gloire, non? C'est-à-dire, c'est comme si Jésus, on a déjà parlé de la gloire. Vous avez, non, on en a parlé pas mal de fois. La gloire, c'est la splendeur de Dieu, Dieu qui s'y manifeste en sa vérité. Et on a vu que la gloire de Dieu, c'est le service. La gloire de Dieu, la présence, la réalité de Dieu, c'est le service. Eh bien, maintenant, je célèbre ce mystère de l'amour, de Dieu qui nous aime, qui est le triomphe de l'amour sur le mal. Et puis, il demande au Père de le glorifier, c'est-à-dire que je fasse connaître ta gloire. Nous le disons chaque jour dans notre Père, quand nous disons que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, si moi, en tant que fils, je révèle l'amour absolu envers mes frères, je te rends gloire. Je révèle ton amour de Père, je révèle que tu es Père. Nous devons toujours se placer dans le cénacle, non? On est les disciples autour de Jésus qui prient ainsi. Eh bien, bien que les paroles de Jésus semblent regarder seulement le rapport de Jésus avec le Père, cela nous concerne directement. Jésus ne parle pas simplement de soi. Il parle de tout homme, de chaque fils. C'est-à-dire, la gloire du Père dépend maintenant de nous. Et cela est quelque chose dont il faudrait prendre conscience. Même si c'est presque inaudible, énorme. Et pourtant, c'est le sens de notre vie chrétienne. Et cela signifie que ton homme soit sanctifié sur la terre comme il est au ciel. Et je me suis, en relisant ce texte aujourd'hui, j'ai pensé à ce que Florence a dit ce matin. Les chrétiens sont appelés les croyants. Non? Les chrétiens sont appelés les croyants. Croire en quoi? En qui? Bien sûr, dans le ressuscité. Mais le ressuscité, c'est, il nous a dit quoi? Que notre réalité de fils, c'est d'être face au Père. Et donc, maintenant, l'heure est venue, notre identité est la même que celle de Dieu, de son amour infini pour nous, pour moi. C'est ce que Jésus veut nous révéler. Notre être croyant signifie avoir cette conscience. Je n'ai pas dit à Vibelle de mettre la mosaïque, mais en fait, vous voyez dans la mosaïque, vous vous rappelez, non? En haut, il y a le tétragramme, après l'esprit, Jésus, la croix, Jésus au centre. Et c'est comme tout descendait vers le bas, du haut en bas. Non? Mais après, il y a la prière très forte. Ses mains tendues vers le Christ, non, qui en fait c'est comme un retour vers le haut du peuple de Dieu, non, et c'est l'Église, c'est la hiérarchie bien sûr, c'est les évangélistes, c'est Marie, c'est Sainte Mérentiane, non, il y a tout, c'est comme si tout allait vers le Christ, non, et quand nous disons, non, lui il est le premier, il a la primauté, il est le premier. Mais cela signifie que nous venons avec lui, derrière lui. Ça signifie que son destin est notre destin. Et après, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc là, il est question de pouvoir. Quel est le pouvoir de Dieu? Dans le texte, c'est clair. Le pouvoir de Dieu, c'est de donner, de se donner. Okay? Et dans le texte, ce verbe donner revient 18e fois. 17 fois, pardonnez-moi, 17 fois. La 18e fois, c'est la nôtre. Et la 18e fois, le 18, dans la numérologie de la Bible, signifie le bon. C'est bien ça. Ok? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Signifie que le pouvoir de Dieu, c'est de donner soi-même. Non? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire un pain qui nous rend comme toi, c'est-à-dire capable de nous donner. Le seul pouvoir que Dieu connaît est de donner la vie, non la lever. De donner sa vie, pas de posséder. De donner, pas de dominer. Servir. Non à servir les autres. Donner la liberté est la seule puissance que Dieu connaît. Et après, Jean continue. À tout ce que tu lui as donné, qui sont ces tous? Ces tous et l'humanité tout entière. Toute l'humanité, au-delà des divisions et des luttes, est considérée comme une. Déjà comme une. Mais comment concevoir cette unité. Cette union, cet être un dans l'amour, c'est le désir fondamental de l'homme, qui peut s'exprimer alors d'une manière aussi brutale, en étant un en supprimant les autres. Eh bien, ce que Jésus enseigne, c'est exactement l'inverse. L'inverse, on dit l'inverse. Au lieu de cela, tant comme il y a union, aspiration profonde, qui est comme la force d'attraction de la gravité dans la nature, ainsi le désir profond de l'homme est d'être un. Mais pas dans la suppression de l'autre. C'est dans l'union de l'amour qui est distension. Alors, le pouvoir qui rend possible cette unité de l'humanité, ce n'est pas un pouvoir qui soumet, mais c'est un pouvoir qui se donne. Et donc, le mot « vie éternelle », hein, qui fait partie de la prière de Jésus, correspond au mot « royaume de Dieu, que ton règne vienne ». Nous le prions chaque jour dans le Notre Père. Eh bien, que nous puissions avoir la vie même de Dieu sur la terre, car le royaume de Dieu qui est Père, hein, c'est que nous vivons comme fils et comme frère. Je pense au désir et au rêve de l'homme, de l'humanité d'être un, au désir d'une profonde communion inscrite dans le cœur de l'homme. Eh bien, c'est le désir et le rêve de Dieu qui a une force et une valeur infinie. Comme nous désirons être un entre nous, ainsi Dieu désire que, comment dire, que son règne vienne dans cette unité de l'humanité. Alors on pourrait se demander là quelque chose de concret, parce que ça semble un peu au-dessus des nuages. Mais comment nous concevons nos relations dans notre communauté au Focolare, dans nos familles, dans nos relations amicales, non? Là, Jésus dit, la clé d'une relation qui va vers l'unité, c'est se donner, pas se soumettre. Pas soumettre, mais se donner. Et après, il dit, qu'ils connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Parce que nous avons continuellement des images de Dieu. Nous connaissons plusieurs formes de Dieu qui ne sont pas le véritable Dieu. Elles sont toutes fausses, elles sont nombreuses, et nous les avons tous à l'intérieur. Le Dieu maître, le Dieu juge, le Dieu terrible, le Dieu des guerres, le Dieu pour qui les croisades sont faites, le Dieu qui justifie les puissants. Ce sont toutes les projections que nous faisons sur Dieu, parce que Dieu est un champ de projection infini. C'est pour cela que d'ailleurs, il dit « Ne vous faites aucune image de moi ». Là, on pourrait se dire, à chaque fois qu'on met Dieu dans une cage, c'est-à-dire dans une projection, ce que m'attend de lui, il y a quelque chose qui ne va pas trop. Et bon. Nous connaissons le Père dans le Fils que le Père a envoyé pour révéler son amour au monde et le sauver de l'ignorance de ne pas avoir un Père. Eh bien, cela signifie, moi je sais, que cela pourrait sembler difficile, mais il n'y a qu'une personne à laquelle connaître Dieu en tant que Père. Et Jésus dit, est-ce que tu connais celui que tu as envoyé, Jésus-Christ? C'est la seule fois que Jésus s'appelle ainsi dans tous les évangiles, comme le Messie. Jésus est homme, et donc sa chair nous l'indique comme le Fils de Dieu, celui qui révèle l'invisible par cette chair. Jésus, qui est un Christ, est le Messie, promis qui sauve le peuple et l'univers tout entier. Le Messie se révèle précisément dans cette chair. Et donc, il n'y a pas de connaissance de Dieu en dehors de Jésus. Toute autre connaissance de Dieu en dehors de la croix du Christ, c'est-à-dire de Dieu qui s'y donne, qui se donne jusqu'à l'extrême, est dite diabolique par Bonhoeffer. Vous connaissez Bonhoeffer, c'est ce pasteur protestant qui est mort sous le nazisme. C'est un pasteur protestant qui est mort sous le nazisme. Voilà. Et bien, il disait justement, en 1945, juste avant la fin de la guerre, non, et il a écrit plein de choses, mais il y a un épistolaire très, très célèbre. On l'a traduit comment en français, tu te rappelles, Bernard? Resistenza e resa. Résistance et soumission. Et c'est très beau, très très beau. Mais il dit, sur la croix est posée la distance infinie entre Dieu est l'idole. C'est-à-dire une image de Dieu. C'est la croix qui nous révèle un Dieu comme amour absolu pour l'homme. Et il se révèle dans la chair de Jésus. Détaché de cette chair, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne pouvons pas faire des pieuses hypothèses. Si au contraire, cette chair maudite sur la croix, comme ce matin Florence nous a dit, mais cette chair s'est faite péché pour nous. C'est la révélation de Dieu qui s'est fait dernier serviteur de tous parce qu'il aime tout le monde dans la mort infinie, sans exclure personne. S'il en excluait un, ce ne serait pas Dieu. Donc personne n'est pas exclu. Personne n'est exclu. Et une dernière chose qui m'a beaucoup frappé en étudiant cette partie, parce qu'à un moment donné, il dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. » C'est un peu, moi je me suis dit, c'est un peu bizarre, non? Moi, que Jésus glorifie le Père, ça va. Mais à un moment donné, Jésus dit « Glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc c'était le début de l'évangile de Jean, non? C'est le prologue. Au commencement, non, c'était... Eh bien, pour moi, ça a été très fort parce que là, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas le moment du jardin des Oliviers qui est dans les autres évangiles. Non, Jésus qui se demande quelle est la volonté, qui pose la question, mais que ce calice passe de moi, non, mais ta volonté soit faite, pas la mienne. Non, dans l'évangile de Jean, on ne trouve pas ça, mais on trouve cette phrase. Glorifie-moi auprès de toi. Eh bien, Jésus dit, je fais le travail que tu m'as donné à faire. Toute l'activité de Jésus qui est son amour pour ses frères est aussi un don de l'amour du Père. Et tu me l'as donné à faire et je l'ai fait. Et maintenant, c'est ton tour. Glorifie-moi. La gloire de Jésus sera la croix. Et donc, il demande au Père d'être glorifié, c'est-à-dire de pouvoir révéler l'extrême amour qu'il a pour nous tous. C'est comme si dans cette demande, Jésus demandait au Père de recevoir de lui la force, la capacité d'aimer comme le Père aime. Et c'est une prière que nous pouvons faire, nous aussi. Le Notre Père, donc... Pour moi, ça a changé la façon de dire le Notre Père. Le Notre Père semble être la prière de ceux qui demandent à Dieu d'apprendre à aimer comme Dieu aime, jusqu'à donner leur vie pour leurs frères. Cela pourrait être notre prière chaque matin. Ça va, je m'arrête, mais je vous raconte une petite expérience personnelle, parce que vous voyez que je l'ai dit en avance. Hein. Je me présente à vous faible, tout tremblant de crainte. Vous comprenez que... D'accord. Mais l'expérience est la suivante. Ça vous arrive de juger les autres? Wow. Je ne suis pas seul. Dans l'assemblée, il y a Paul avec qui j'ai vécu et Bernard avec qui j'ai vécu. Donc, il y a deux témoins que je suis un champion du jugement. Et à un moment donné, la tentation arrive. De se dire, bah, c'est pas mes affaires, qu'il s'en aille, j'en peux plus. Non? Et je vous avoue que je l'ai fait. À un moment donné, je me suis désintéressé des problèmes qu'il pouvait y avoir dans l'école, dans le mouvement des focolaries, dans l'église, dans la société. Alors, Dieu arrête, ça va, je m'en fiche. Non? Et quand j'ai lu ça, quand j'ai compris que Jésus lui-même demandait au Père la force d'aimer jusqu'à donner la vie, j'ai commencé à prier ainsi, de la même manière. J'ai commencé à prier, donne-moi la force de donner ma vie, vraiment, pour le mouvement des Focolaris, pour mon Focolard, pour ma famille, pour mes étudiants, pour mes collègues de travail. Donne-moi la force de donner la vie pour eux, comme l'a fait Jésus. Parce qu'il est le premier, nous sommes derrière lui.
Je crois que, je ne sais pas, merci. Et surtout, je trouve que cette possibilité de dire le Notre Père de cette manière-là, c'est magnifique. Et il me venait simplement de le redire. Avec cette richesse, j'ai eu la chance de beaucoup méditer ce chapitre 17. Ça, c'est le préambule, on pourrait dire. Tu ne nous as pas tellement donné le contenu, mais tu nous as donné cet approfondir le sens du Notre Père qu'on sait tous. À cette lumière, je manque que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'était la dernière chose. Tu ne l'as pas dit, donne-nous, etc. Merci, voilà. Je pense que ce sont simplement 5 versets. Et ce n'est pas tellement le contenu de la prière, mais c'est le résumé de la prière. Jésus dit déjà tout ce qu'il va développer par la suite dans les autres versets qui sont quand même... Encore plus de 20 versets qui doivent suivre. Il me semblait simplement que, si vous voulez qu'on le dise ensemble, ce Notre Père. Que l'Esprit Saint complète... envers le Père, ce que le contenu qu'on n'arrive pas à lui donner, tellement c'est profond.
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
la méditation personnelle. Vous trouverez le texte que je viens de lire et aussi Saint Paul que j'ai cité et des psaumes, Jean, le prologue de Jean, chapitre 1, et des psaumes qui parlent surtout de la confiance en Dieu de l'homme. Ils sont très beaux à lire et à laisser descendre, voilà, dans notre cœur.